Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de GREHAC, une conférence qui s'est tenue il y a quelques semaines. Et pour discuter de ce sujet, nous recevons Thomas Gerbet. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Nous recevons également Damien Coquil.
Bonjour
Damien. Et les contributeurs No Limit Sécu sont Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Thomas, tu fais partie du comité d'organisation ?
C'est cela, oui, depuis l'an passé.
Alors, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement et nous faire un petit historique de GREHAC ? De GREHAC,
oui,
on dit GREHAC.
On dit GREHAC. Alors, effectivement, GREHAC, c'est une conférence de sécurité internationale qui se déroule à Grenoble, d'où le nom, la contraction de Grenoble, qui se déroule depuis maintenant 4 ans. C'est la 4e édition cette année, et qui se découpe en 3 parties. Une première partie, la journée, qui est consacrée à des conférences. La première partie de nuit, à une série de workshops. Et enfin, le reste de la nuit dédié à un CTF.
Damien, en introduction, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement ?
Oui, je m'appelle Damien Coquille, plus connu sous le pseudo Virtual Labs. Je travaille actuellement dans une société de sécurité informatique. J'ai la charge de la R&D Digital Security, qui est une société qui s'est montée l'année dernière. Donc accessoirement, je fréquente aussi beaucoup de conférences. Je suis aussi orateur dans plusieurs conférences, dont notamment cette année à GREHAC.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur GREHAC ?
Alors, GREHAC, cette année, c'était 280 participants à la conférence, 200 pour les workshops, 200 participants, et un peu plus de 200 pour le CTF. Un an d'organisation, et 30-35 personnes à l'organisation derrière pour toute la journée.
Alors, quelles sont les conférences qui vous ont marqué ?
Moi, j'ai bien aimé la partie sur Haribo, avec en ce qui concerne la manipulation et la réduction notamment d'expression algorithmique au sein d'exécutables. C'était une partie sur du reverse engineering et notamment la désobfuscation de code, qui était très intéressante. Ça faisait appel à certains systèmes et certaines solutions qui ont déjà été évoquées dans d'autres conférences précédemment, mais disons que l'exposé était vraiment, vraiment clair, à mon sens, et il faisait référence à certains travaux qu'avait mené Jonathan Salwan sur Triton, notamment. Vraiment intéressant. Enfin, après, je ne vais pas entrer trop dans les détails, parce que c'est notamment une des conférences qui était assez, assez complexe, mais en particulier celle-là, si j'avais à retenir une. Il y a une qui m'a marqué, sinon, c'était celle, la première, en fait, la keynote qui a été faite par Stéphane Sarrieux de Microsoft, qui présentait notamment tout ce qui était Trusted Computing. Bon, intéressante sur le contenu, notamment. Après, j'ai pas suffisamment de compétences dans ce domaine, assez bas niveau en tout cas par rapport à ce qu'il présentait, pour savoir à quel point c'était vraiment, vraiment performant et vraiment efficace en termes de sécurité. Ça m'amuserait bien de travailler un petit peu là-dessus pour voir un petit peu comment c'est structuré, comment on peut intervenir là-dedans. Je retiens juste qu'il a débordé quand même pas mal et que c'est lui qui a déclenché tout le retard de la suite de la conférence. Bref.
Ouais, surtout que son intervention était à propos du trusted, enfin, protecting data on smartphones and tablets. Ça. Donc, quand on connaît le succès de Microsoft dans les téléphones portables et les tablettes.
Bon, en tout cas, je pense que c'était quand même intéressant, mais un peu débordé.
Et ton exposé, de quoi s'agissait-il ?
Alors moi je présentais un framework que j'ai développé qui permet de faire des attaques de type homme du milieu sur tout ce qui, enfin, protocole Bluetooth Smart, aussi connu sous le nom Bluetooth Low Energy. L'idée en fait de cette présentation, enfin de ce framework, c'était que j'ai subi pendant à peu près un an et demi des déboires avec l'interception par sniffing. Donc j'avais pas mal testé les matériels et outils existants. Or, il se trouve que vu que je travaillais beaucoup sur tout ce qui était objets connectés, c'était très, très problématique. Je perdais facilement une à deux journées, des fois, juste pour faire une interception valable. Et je ne te parle même pas des démonstrations à faire dans des conférences. Je l'ai présenté un exemple de sniffing, c'était l'année dernière, durant le Chaos Communication Camp. J'ai fait ça en live devant, je ne sais pas, peut-être 1000 ou 1000 quelques personnes. Et ça a lamentablement échoué au niveau sniffing. Bon, c'est aussi l'édition, ils ont eu la très bonne idée de distribuer des badges électroniques qui étaient rien de moins que des HRF, calés sur la plage de fréquence exacte utilisée par le Bluetooth Smart, c'est-à-dire la plage des 2 giga 4. Donc quand tu as une salle avec blindée d'HRF qui font des émissions diverses et variées sur les mêmes plages de fréquence, pour sniffer du Bluetooth, c'est très compliqué. Heureusement, j'avais prévu quelques vidéos. Mais bon, donc cette partie sniffing, en tout cas, elle a toujours été problématique. Et ça faisait quelques temps que je cherchais une alternative pour faire des captures fiables. De manière à pouvoir analyser le comportement des objets connectés. Et donc l'approche Man in the Middle était une approche théorique évoquée notamment dans la norme. Donc c'est quelque chose qui était censé fonctionner. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'outil existant pour le faire. Donc j'ai essayé de concevoir cela avec une solution technique qui est encore en cours de développement. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le système marche relativement bien, mais il y a encore des améliorations à faire. À noter que, chose étonnante, il y a un autre chercheur en sécurité qui a présenté, je crois que c'était à Black Hat cette année, un outil un peu similaire, pas forcément les mêmes fonctionnalités ni la même approche, mais les mêmes technologies en tout cas. Donc c'était, voilà, comme quoi.
Et toi Nicolas, quels sont les confs qui t'ont marqué ?
Alors moi je voudrais dire un truc d'abord, c'est que de manière assez surprenante, mais tout à fait louable, Groax se fait entièrement en anglais. Il y a beaucoup de confs en France, je ne sais pas si on peut citer les concurrents, mais où c'est assez rare d'avoir de l'anglais, ou alors les tracks sont en anglais sont explicitement mentionnés, et parfois il y a la traduction simultanée dans les plus grosses conférences. Et là, GreHack, vraiment, je veux dire, le mot d'introduction, les conférences des Français, etc., tout se fait en anglais. Moi, je trouve ça bien. Enfin, je travaille à l'étranger et je trouve que c'est vraiment un plus pour les gens qui font l'effort de venir en France depuis l'étranger.
Et sinon, Nico, quels sont les confs qui t'ont marqué ?
C'est vrai que cette année, il y avait beaucoup de beaucoup de reverse engineering, analyse de virus, simplification de mix boolean arithmétique, etc. Bon, c'est toujours intéressant, même si moi, c'est pas mon domaine. Après, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses pratiques. Ça, c'est aussi quand même très intéressant. Par exemple, Scapy en 15 minutes. Bon, Scapy, je connais bien, mais il y a quand même toujours des nouveautés. Par exemple, là, il y a un port macOS X natif qui vient d'être ajouté. Pareil pour Radar 2. Bon, Radar, c'est un outil de reverse engineering. Toutes les commandes font un caractère. Donc, en gros, s'il n'y a pas quelqu'un qui l'explique ou qui fait une présentation dessus, tu as un peu de mal à t'en servir, quoi. Donc voilà, j'ai bien aimé cet aspect introduction rapide et vraiment to the point à des outils de sécurité ou à des concepts, quoi. Pareil, j'ai bien aimé la solution du challenge qui était en fait une disquette bootable. Il y avait eu un petit challenge avant la conférence sous forme d'une image et en fait c'est une image de disquette et en fait il fallait juste faire du reverse engineering sur du code MS-DOS, quoi. Enfin, du code. Je sais même pas s'il y avait. Non, il n'y a même pas de système d'exploitation. Hein. C'était un code brut qui faisait juste des appels au BIOS pour accéder au disque ou au clavier, des choses comme ça, quoi.
Alors, il y avait plusieurs étapes dans le challenge pré-conférence. En fait, il y avait quatre étapes. Une première qui était plus une espèce de web remis à la sauce ancienne avec du Gopher. Une seconde étape, un peu de forensic sur du Windows 1.0. Une troisième plus brainfuck par nos spécialistes en interne dans le domaine. Et la dernière étape qui était du reverse.
Oui, il faut dire que c'est Fabien Périgaud qui a gagné encore une fois. Mais je crois que c'est la troisième étape où on va dire que c'était difficilement. Il fallait avoir l'intuition, quoi. C'était pas vraiment.
Je ne dirai rien sur le sujet, mais effectivement, oui. Franck, le créateur du challenge a un peu tendance à être comme ça. Même dans la vie de tous les jours, hein, on vous rassure. Mmh. Et le challenge était quelque peu difficile. Ça permettait de faire le tri avant la dernière étape.
Bah, honnêtement, la présentation de Fabien était vraiment très très bonne. Par contre, effectivement, j'aurais pas fait le challenge. Enfin, je sais pas combien de temps il faut pour arriver au bout, mais c'est juste de la folie, quoi. Sans parler du fait qu'intercalé entre les différents niveaux techniques, il y avait des reconnaissances d'images sur des ordinateurs, on va dire, des années 80, voire plus anciens. Et des fois, c'était pas toujours évident, parce qu'il y a eu quand même pas mal de modèles qui étaient assez similaires d'aspect. Et donc, trouver le modèle exact avec l'orthographe exacte, etc., c'était pas toujours évident, quoi. Je crois qu'il est resté bloqué là-dessus plus longtemps que
c'est
sur
pas
le
impossible,
challenge
oui.
Reverse, d'ailleurs.
Surtout que ça reste Fabien, donc...
Et qu'est-ce qu'on gagnait à la fin, d'ailleurs ? Je ne me souviens plus.
Alors, c'était principalement quand même pour faire venir les gens. Donc, il y avait des places qui étaient dédiées avec leur pas, avec l'accès au repas des speakers et le suite de la conférence qu'on fournissait cette année. Voilà.
Voilà, ça, c'est quelque chose dont il faut qu'on parle, le repas des speakers. Parce que la spécialité, quand même, de cette conférence grenobloise, c'est la chartreuse.
Effectivement, l'un de nos sponsors.
Ah, ils vous sponsorisaient carrément.
Ah oui, on s'arrange
vous
avec
êtes
eux.
Sponsorisés par une abbaye, c'est quand même original pour un corps de sécurité. Ils cherchent à recruter ou...
On ne sait pas, mais on pense pas, non. Et ça tourne bien de leur côté.
Donc cette année, il y avait une flasque de chartreuse offerte. Alors, je ne sais pas si à chaque participant, mais au moins à chaque participant au dîner de la veille, où il ne fallait pas être speaker pour parler. Il fallait être... Il y avait aussi des tickets bénéfactors en vente qui permettaient aussi d'accéder au dîner des speakers, moyennant un prix, on va dire, beaucoup plus élevé. Ce qui est, enfin, moi-même, ayant organisé des conférences, je sais que ce système plaît bien parce que souvent, c'est plus facile pour quelqu'un qui est dans une grosse entreprise d'acheter un ticket plus cher pour sponsoriser plutôt que de passer par le service com et essayer d'avoir un sponsoring en bonne et due forme, quoi. Et d'autre part, le t-shirt de la conf était vert chartreux. Donc c'est aussi tout à fait notable, ça change du t-shirt noir avec des têtes de mort, quoi.
Après ça dépendait du rôle que tu avais, grosso modo, parce que moi j'en ai eu un bleu, tu vois, on n'avait pas de vert.
Si vraiment tu souhaites
deux,
un
peut-être,
vert...
On peut peut-être faire des échanges.
Non, un seul, c'est largement suffisant. Mais c'est vrai que de toute façon c'est différent de noir, ça changera de la pile de t-shirt noir que j'ai dans mon armoire, quoi.
Après il y a eu une séance de RAM session, donc ça c'est toujours appréciable aussi parce que... les gens ont entre 3 et 5 minutes, donc c'est vraiment très efficace, présentation vraiment deux slides, uniquement les résultats. Et ce qu'il faut dire aussi, ce qui sera son importance par la suite, c'est que faire une RAM session donnait des points pour le CTF.
Et donc, plus de points d'ailleurs si tu la faisais en anglais.
Mais tout le monde l'a fait en anglais, non ? Ah non, il y en a une en français, je crois.
Effectivement, on a dû en avoir deux sur les 6 RAM sessions, on a dû avoir deux conf, enfin deux RAM en français.
Voilà, sinon après, donc il y a eu des workshops. Et là, les workshops, d'habitude, ils se font la veille dans la plupart des conférences. Parce que là, c'est vraiment des ateliers hands-on où les formateurs viennent avec du matériel. Là, il y avait 3 heures, je crois, réservées au workshop. Donc, ça laissait vraiment...
Ouais, c'était plutôt 2h30 que 3 heures. Mais effectivement, après, certains ont préféré déborder un peu pour prendre un peu de temps sur le CTF et rester discuter avec la personne qui a organisé le workshop pour en profiter le plus possible.
Et quand tu prends un ticket pour la conférence, tu peux participer au workshop ou c'est...
Différents types de tickets cette année. On avait des tickets qui étaient conférence plus workshop, ou des tickets qui étaient conférence, workshop et CTF, qui permettaient d'avoir l'accès à tout, et juste des billets workshop et CTF pour les personnes qui ne souhaitaient pas assister à la journée de conférence, mais juste venir pendant la nuit pour participer au workshop et au CTF.
Et Nicolas, tu as participé au workshop ?
Moi, j'ai fait le workshop radio logiciel avec Marc Ollagnier,
wow.
Qui a parlé sans discontinuer pendant 3 heures. C'était une belle prestation de sa part. Je pense qu'il a perdu des gens dans la salle, je pense, mais effectivement, c'était... Alors, il avait évidemment apporté 50 kilos de matériel, mais bon, on n'a pas commencé à faire des écoutes sauvages pendant la conférence, puisque comme il le rappelait, tout ce qui est radio est extrêmement surveillé en France. Et aussi bien par les militaires que par l'autorité nationale des radiofréquences. Donc en fait, le takeaway de son workshop, c'est qu'il fallait absolument passer sa licence de radio amateur de manière à pouvoir être légalement autorisé à faire toutes ces manipulations avec la SDR, enfin tous les outils qu'on peut trouver aujourd'hui pour faire de la radio, quoi. Et que sinon, on prend des risques. Mais j'avoue que, enfin, Marc, il est passionnant, quoi. Quand tu lâches, surtout sur un sujet comme celui-là. Je veux dire, il a vraiment parlé 3 heures sans s'arrêter, rempli d'anecdotes avec des rémetteurs infrarouges militaires qu'il a localisés dans les montagnes autour de Grenoble, etc. Enfin, c'est passionnant, quoi.
À ce propos, je rappelle que nous avons réalisé avec Marc Aulagnier un épisode sur le SDR. Donc si le sujet vous intéresse, cet épisode très intéressant est à votre disposition sur notre site web. Et le CTF alors ? Y as-tu participé ?
Le CTF était vraiment très original parce qu'il y avait quelques niveaux. Par exemple, il y avait une cabine téléphonique démontée, mais en état de marche. Et je crois qu'il y avait un niveau qui était basé sur la cabine téléphonique. Moi, je ne l'ai pas fait.
Effectivement, oui. Il y avait un niveau qui était divisé en deux étapes qui apportait pas mal de points qui permettaient de faire les différences à la fin.
Il y a eu un niveau où il fallait chercher des beacons Bluetooth Low Energy. Donc apparemment, il y en avait une qui était cachée dans les toilettes, mais je ne sais pas où exactement. Je ne sais pas s'il fallait venir avec des gants MAPA.
C'est... Absolument pas. Et l'autre était planqué à côté de la tireuse de bière.
Ok. Ouais,
tireuse, toilette, c'était bien. Bien pensé.
Il y avait un thème.
Il fallait trouver les beacons dans l'ordre, parce que sinon... Il y avait un challenge qui consistait à aller visiter le musée de l'informatique. Apparemment, il y avait une association de préservation du patrimoine qui était venue avec du matériel. Et si on écoutait le discours du propriétaire et qu'on répondait à un petit QCM à la fin, on gagnait des points aussi. Donc ça, je ne l'ai pas fait non plus. En fait, moi, j'ai fait un seul challenge dans le CTF et après, je suis allé prendre mon train. Mais à la fin, j'ai découvert que je m'étais inscrit avec la bonne équipe parce que... Si j'ai bien compris, les deux premières équipes ont fini ex aequo.
Ils ont fini à 50 points de différence grâce à une rump.
Voilà, et en fait, c'est les 50 points de la rump en anglais que j'ai faite, que j'ai donné à l'équipe dans laquelle je m'étais inscrit, qui ont fait la différence. Donc, voilà, comme quoi, donner des points pour les rumps, ça a servi à quelque chose et ça a vraiment fait la différence à la fin.
Et il y avait quoi à gagner alors, justement ?
Alors, les lots étaient... Il y a bien évidemment de la chartreuse, parce qu'on ne se renie pas. Et après, nous avions des licences Binary Ninja. J'ai plus la liste des lots sous la main. Mais il y avait des licences Binary Ninja. Il y avait toujours des suites, nos superbes suites Grok de cette année. Et je ne sais plus exactement ce que nous avions pour le CTF.
Enfin, les gens, ils jouent pas pour...
Pour les lots, non, je pense que c'est pas vraiment le but.
Et l'année prochaine, quel changement on pourra noter ?
Alors, l'année prochaine, de notre côté, on n'a toujours pas fini de dépiler tous les retours qu'on a eus. Donc, c'est toujours un peu en cours d'élaboration. Ce que je peux vous dire, c'est que la date sera toujours aux alentours de mi-novembre. Ça, on ne change pas. Et que nous serons toujours sponsorisés par Chartreuse. Ce qui est l'information quand même la plus essentielle.
Il y a quand même une année où vous étiez sponsorisé par un livreur de pizza, c'était plus... le ROI était plus intéressant.
Effectivement, on fait ce qu'on a. Et on trouve malgré tout que Chartreuse, c'est quand même pas si mal sur le long cours.
Très bien. Est-ce que vous voyez des choses à ajouter ?
Au niveau de l'équipe, comment ça se passe ? Parce que vous êtes quand même tous étudiants, donc c'est quoi ?
Alors, au niveau de l'équipe, effectivement, c'est organisé par Securimec, qui est une association étudiante au sein de l'Université Grenoble-Alpes. Il y a un noyau dur qui est là, qui permet de faire un peu de changement d'une année sur l'autre. Et sinon, tout le reste, effectivement, tourne tous les ans et en fonction des disponibilités des étudiants qui sont sur place. Donc on fait toujours pareil, on fait au mieux avec ce qu'on a. Et on essaie de s'organiser comme ça.
D'accord, il y a quand même un passage de flambeau qui se fait, parce que dans la conférence, c'est quand même tout ce qu'on apprend au moment de la conférence qui a la vraie valeur ajoutée, quoi. C'est ouais. L'expérience du staff, en fait.
Bien sûr, oui, on fait un passage d'expérience le plus possible. Et en fait, le noyau dur est quand même à peu près constant d'une année sur l'autre. Donc même si c'est beaucoup d'étudiants et ça tourne beaucoup, on a beaucoup de turnover, l'organisation centrale reste un peu là, présente, et là d'une année sur l'autre.
Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce qu'il y a des vidéos, des conférences ?
Les vidéos seront mises en ligne prochainement sur comme on l'a fait l'an passé. C'est pour les prochaines semaines. On n'a pas encore tout à fait la date, mais c'est en cours de montage, de filtrage, enfin, tout ce qui est post-processing qui va bien. Ça sera mis en ligne. Et puis voilà. Et puis nous, on espère tous vous voir l'an prochain à Gorak.
Est-ce qu'il y a besoin de contributeurs ou
Alors, nous, on est toujours ravis d'avoir du monde pour venir nous aider, que ça soit juste au travers de soumissions de papier, que ça soit au niveau de propositions pour les workshops, ou même de sponsoring pour la conférence.
Bon. Oui, ce que tu dis pas, c'est que le niveau sponsoring, en fait, il y a trois niveaux. Il y a le niveau 16 bits, 32 bits et 64 bits. Il n'y a pas de niveau silver, gold et platine.
Non.
Pas mal. Bon. Eh bien, un grand merci d'avoir participé à cet enregistrement.
Eh bien, merci, merci à vous.
Merci Damien. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.